RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
GG les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story Radio et télé pour les GG avec aujourd'hui Jean-Philippe Cartier, le chef d'entreprise investisseur. Il est à la tête du mouvement Le Pouvoir de l'Action. Abel Boyer, l'éducateur, et Barbara Lefebvre, enseignante en histoire-géographie. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Tout à l'heure, à midi moins 20, on reviendra sur le fléau des noyades. Une vingtaine de personnes sont mortes par noyade en France depuis le 20 juin. C'est ce qu'a dit la ministre des Sports. Alors, il y a des baignades dans les cours d'eau, il y a l'hydrocution, et puis il y a l'imprudence aussi, malgré les appels. Et il y a une question aussi, est-ce qu'on sait plus ou moins bien nager? Est-ce qu'on ne sait pas moins bien nager qu'avant? Question, je pose franchement en toute naïveté, hein, mais on en parlera tout à l'heure à midi moins 20 avec vous. 11h20, le sujet sur l'intelligence artificielle, ça sera pour les lycéens de seconde dès 2027. Est-ce qu'on a besoin de donner des cours d'intelligence artificielle, savoir le manier aux lycéens? On en parlera à 11h20. D'abord, on va accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Vous le connaissez, vous l'avez souvent vu sur RMC, dans les GG, sur BFM TV aussi. Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Avec ce livre Balance ton plein, quel est le prix de la vie d'un Français? Le livre est aux éditions Fayard. Alors moi je ne savais pas, mais vous avez créé un petit indicateur qui s'appelle le temps de travail nécessaire, ouais, pour un plein, le TTMP. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais, je trouvais ça intéressant, on aime bien les acronymes en France. J'ai voulu calculer un petit peu parce que j'ai vu pas mal de médias qui mettaient en avant le fait que les Français se plaignaient, que le prix des carburants finalement c'était pas si dingue et que chez nos voisins européens c'était même parfois un petit peu plus cher. Donc j'ai regardé, j'ai pris les revenus, le plus bas revenu en France, le SMIC en tout cas, pour un temps de travail à 35 heures, et puis le revenu médian. Et je l'ai comparé à ce qui se fait ailleurs dans les autres pays européens où les prix des carburants sont un petit peu plus chers que nous. Et je me rends compte qu'en fait, le pays qui matraque le plus à coups de taxes les Français sur les carburants, c'est cocorico, c'est évidemment la France. Et ça, on ne le met pas en avant. On veut toujours mettre en avant le fait qu'il faut une fiscalité, l'écologie, tout ça, tout le monde l'entend. Mais celui qui est prisonnier de son véhicule parce qu'il en a besoin au quotidien, celui pour qui il faut absolument balancer son plein parce que ça devient en tarif un poids tellement élevé que ça pèse pour un tiers parfois, quand on fait un plein par semaine, un tiers de son budget pour aller bosser. Quand on consacre un tiers de son budget pour aller bosser, on a un problème. La différence, elle est colossale vis-à-vis de nos voisins européens. Et on doit absolument, absolument le prendre en considération et faire baisser cette fiscalité qui tue aujourd'hui la mobilité et qui tue l'économie en France. C'est
là,
ça le
déjà,
plus intéressant.
La question qu'on se pose, c'est avec la fin de la guerre, quand est-ce que ça va baisser encore plus à la pompe? Est-ce qu'on retrouvera les niveaux d'avant ou pas?
Non. Non, mais ça aussi, ça m'ennuie. Bon, c'est l'actu, elle est faite comme ça. Quand les prix passent les 2 euros, c'est le sujet. On en parle, c'est sur toutes les chaînes, c'est le sujet du jour. Et puis maintenant, ça descend à 1,95. Ah ben c'est bon, c'est descendu en dessous de 2 euros. La réalité, c'est qu'hormis ici, on n'en parle quasiment plus. Et pourtant, pour chaque Français, ça se traduit par une perte de pouvoir d'achat. La perte de pouvoir rouler, c'est la perte de pouvoir d'achat. La perte de pouvoir d'achat, c'est amputer la croissance et c'est derrière peut-être même la récession en France. Je me souviens, j'ai envie de dire, et la boucle est bouclée. J'étais ici au tout début de la guerre, lorsque le détroit d'Ormuz était à peine fermé. Et on a annoncé ensemble, ce que j'annonçais, c'est-à-dire dans une lettre ouverte, le fait qu'on allait avoir un taux de croissance qui allait être plombé en France. Bon, je fais pas partie des diseuses de bonnes aventures, c'était juste évident. Eh bien, on l'a oublié parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'à 1,90, 1,80, il n'y a plus de problème pour les Français. Mais c'est colossal! C'est toujours le même budget! C'est toujours une amputation du budget des Français et ça se ressent toujours dans l'économie. Et pourquoi on ne peut plus baisser en dessous d'1,70€, 1,75€? Et ça, c'est dans le bouquin, c'est parce qu'on a inventé des taxes cette année. On a déguisé des taxes, on a dit que c'était pour l'écologie, ça s'appelle plus taxe, ça s'appelle certificat d'économie d'énergie. On trouve des jolis noms, mais au final, on matraque les Français, on continue et puis ça se traduit par une croissance à zéro.
Avant d'écouter mais les grandes gueules, vous dites on est les champions du monde de la triple peine.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, on paye trois fois. On paye une fois en achetant son véhicule parce qu'il y a des taxes dessus. On paye une deuxième fois parce que bon, il y a les impôts, c'est logique. Et une troisième fois dès qu'on fait notre plein, quoi. En fait, on paye tout le temps. C'est la triple peine quand on est automobiliste.
Ouais, alors que quand on réfléchit, la croissance en France économique, c'est de la consommation. Comment peut-on imaginer que surtaxer la mobilité va nous amener à une augmentation de la croissance? C'est pas possible. En fait, on devrait tout faire pour imaginer une fiscalité à la baisse qui permet aux gens de se déplacer. Le déplacement, c'est la croissance. C'est le syndrome, ça je l'ai pas mis dans le bouquin, mais il y a d'autres choses dans le bouquin, il y en a tellement. Mais c'est le syndrome d'IKEA. Lorsque vous allez chez IKEA, vous avez rien à acheter. On va juste se promener. Et quand vous sortez, vous avez acheté une paire de chaussons, une bricole, deux assiettes, et au final, vous avez consommé. Eh bien, c'est ça. Lorsque, et je l'ai fait hier pour ma fille, on est parti juste pour s'acheter un pantalon, pour lui acheter un pantalon. Au final, j'avais deux sacs remplis. On est tous pareils. Lorsqu'on se déplace, on consomme. Si on reste à la maison, qu'est-ce qui se passe? Des petits colis. Société Amazon, AliExpress, Temu. Et tout ça, ça se retrouve sur le bord de la fenêtre ou dans la boîte aux lettres. Est-ce qu'on a une fiscalité engendrée pour l'État? Non. On a tué l'économie. L'économie, c'est de la croissance et de la mobilité. Ça paraît, mais d'une évidence.
Alors, Monsieur Chasseret, oui, j'entends tout à fait tout ce que vous dites, votre constat, et je le partage. C'est qui on? Parce que on a tué l'économie, on a tué la croissance, on a créé des taxes. Ouais. Qui est ce on? Parce que personnellement, je ne me sens pas concernée. On est un certain nombre ici à ne pas se sentir concernée. Moi, j'ai rien fait du tout. J'ai payé, par contre, hein, j'ai payé mes impôts, j'ai payé l'URSSAF aussi en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, je crois que j'ai payé, mais j'ai rien reçu à part, bien sûr, ce fameux salaire, je sais plus quoi là, c'est frais, pour la médecine et voilà, c'est tout. Hein, parce qu'après, à part ça, je crois que je ne pèse pas vraiment sur l'économie de mon pays. Donc, qui est ce on?
Facile,
qui a donné cette autorité à ce on, si ce n'est les citoyens lorsqu'ils doivent voter, à moins qu'il y ait un système politico-médiatique, je ne sais pas, qui s'arrange toujours pour que ce soit toujours le même on qui nous impose toujours les mêmes taxes, qui travaillent toujours dans les mêmes ministères et qui s'appellent la technocratie, les petits hommes gris de Bruxelles en alliance avec les petits hommes gris de l'ENA, du Conseil Constit et compagnie.
Alors Barbara, je vois que vous avez le livre, je me souviens, je l'ai dédicacé celui-ci. Je me dis Barbara qu'au final, oui vous avez raison, mais tout est dans le livre. Qui est on? Eh bien la stratégie du tournevis à cliquet. C'est-à-dire que lorsque l'État crée une taxe, il choisit sur les carburants, il choisit le moment où le prix du baril a baissé. On met un petit coup de tournevis à cliquet, vous savez, crac, ça serre. On augmente la fiscalité, on s'en rend pas compte. Il faut rendre à François Hollande ce qu'il y a à François Hollande. La plus grosse augmentation de la fiscalité sur les carburants ces dernières années, c'est François Hollande. Et c'était magnifique. Rappelez-vous, Barbara, il nous avait annoncé qu'il y avait un avantage fiscal au diesel. Alors ceux qui roulaient au diesel comprenaient pas parce qu'ils trouvaient que c'était déjà démesurément cher. Et il a dit il faut un rattrapage pour aligner les taxes des carburants. Comment on a rattrapé? On a augmenté le diesel et on a augmenté aussi l'essence. On a tout réaugmenté et on en tire les frais. On en paie les conséquences aujourd'hui. C'est que tous les gouvernements confondus depuis maintenant, depuis Nicolas Sarkozy en tout cas, ont tous tourné le cliquet. Jusqu'à ce moment où les prix des carburants ne pourront plus descendre sous les 1,75€. Là, je me dis, je pense à tous les Français que j'ai croisés, tous ceux qui m'ont écrit. Vous savez, les quatre portraits que j'ai sélectionnés, ce sont des vrais gens qui existent vraiment. Léa m'a appelé, je l'ai eu au téléphone. Quand elle m'a expliqué qu'elle avait cet entretien d'embauche qui était à 50 km de chez elle et que c'était 100 km aller-retour, elle ne peut pas, parce que 100 km, c'est 13 euros. Ces gens existent. Lorsqu'ils existent, si on continue à leur mettre ces coups de cliquet sur les prix des carburants, on a des conséquences indirectes. La désertification des zones rurales. Tout le monde se condense en ville. Au final, après, on se plaint d'être dans des clapiers à lapins et d'avoir une canicule qui nous touche. Mais vous savez, dans les zones rurales, à la base, là où on avait encore des petits pavillons, où il y avait un espoir pour les Français de s'écarter de la couronne et de la capitale, il y avait une qualité de vie. Aujourd'hui, on en vient à renoncer à cette qualité de vie. On veut tout plus petit parce qu'on n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens de se déplacer. C'est une catastrophe économique et une catastrophe politique d'augmenter la fiscalité sur les carburants.
C'est ça qui est très subtil dans votre livre, parce que c'est pas juste un coup de gueule contre des taxes trop fortes. Il y a une sociologie. Le rapport du Français à la voiture aujourd'hui, avec la désertification du monde rural, avec la désindustrialisation, beaucoup de Français travaillent de plus en plus loin de chez eux, en fait. Et ça sort beaucoup. Mmh. Le premier cas de Marie, moi, il m'a bouleversé. Mmh. Cette infirmière libérale dont vous expliquez que le premier réflexe n'est plus d'embrasser ses enfants, mais de regarder sa position de compte. Et on est des millions de Français à avoir été comme ça. Donc, c'est vraiment extrêmement bouleversant. Moi, j'ai deux questions très rapides, parce que je pense que vous avez étudié ce qui se passe à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Quel est, selon vous, le meilleur modèle? Quel est le pays qui a le meilleur modèle dans sa gestion du prix de l'essence? Et deuxième question, parce qu'on parle des politiques français, moi je pense qu'il y a une injonction de Bruxelles, hein, tu l'as effleuré, parce que comme il faut tous nous faire passer à l'électrique, je vais faire mon petit complotiste de bazar, et qu'on a peur de la domination de la Chine, alors, va-t-il se passer à l'avenir?
Il y en a plein des questions. Alors déjà, c'est
on
pas
a que deux.
Sur l'Europe, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, justement, c'est ce que je mets en avant dans ce livre. J'en ai eu, pourquoi ce livre? Pourquoi Balance ton plein? Parce que j'en ai eu tellement marre d'entendre sur tous les plateaux de télévision et de radio le même discours répété et qui était faux. Puisque tout le monde répétait des bêtises, je me suis dit, il faut corriger la vérité. Mmh. Et pour corriger la vérité, il fallait écrire quelque chose qui soit incontestable. Incontestable d'un point de vue économique, incontestable d'un point de vue sociologique. J'en avais marre qu'on me regarde comme le DG de 40 millions d'automobilistes qui est celui qui hurle mais qui ne propose pas. Mmh. Là-dedans, il y a tout. Alors, quand on dit « l'Europe ne veut pas de la baisse des prix des carburants », c'est totalement faux. Et d'ailleurs, ce livre n'est pas un bouquin d'anarchiste.
Donc, nos politiques sont tellement en manque d'intelligence qu'ils vont contre le bon sens de l'Union européenne.
Ce sont
que vous nous dites.
Ce sont des toxicomanes de la taxe.
D'accord.
Et je crois...
Des toxicomanes.
Des toxicomanes, comme je les ai appelés exactement. Je voulais, à l'intérieur de ce livre, démontrer et montrer aux Français que, un, ça a un intérêt économique, et deux, juste pour vous donner un ordre d'idée, si demain on cale notre fiscalité à hauteur de ce que préconise l'Europe, il y a moins 70 centimes sur les prix des carburants par litre pour chaque Français. Il faut l'entendre. Si on applique ce que l'Europe préconise sur les carburants, c'est moins 70 centimes par litre pour les Français. Arrêtons de dire
ça
que l'Europe...
Quoi, alors Monsieur Macron veut pas obéir à l'Europe?
Ah,
ça
ben,
l'arrange, quoi.
C'est la géométrie variable et c'est une géométrie idiote parce qu'en fait, cette économie qu'il croit générer, mais vous les avez tous entendus, Barbara, l'État n'a plus les moyens de baisser les taxes. Non, c'est pas vrai. L'État n'a plus les moyens de ne pas baisser les taxes. Baisser la fiscalité, c'est rendre du pouvoir d'achat. Bah oui. Rendre du pouvoir d'achat, c'est de la consommation.
Bah oui. Ouais,
il y a quand même pas besoin de sortir de Saint-Cyr.
Jean-Philippe Cartier.
Ils ont tous fait l'ENA. Hein.
Non, mais ouais, ça c'est pas la plus
grande réussite. Problème.
Non, mais de manière plus large, la question c'est jusqu'où peut-on taxer la vie quotidienne des Français en fait. C'est quelle est la limite de l'exercice? Voilà, jusqu'où on peut taxer la vie quotidienne des Français avant que vraiment ça finisse par péter définitivement. On a tous vu l'exemple des Gilets jaunes. Pardon, on a tous vu l'exemple des Gilets jaunes, qui a été le point de rupture. Hein. À ce moment-là, ça démarrait par l'essence. Moi, mon papa habitait à côté de Nérac, à une heure de Bordeaux. C'était un médecin retraité. Il m'a dit, ça va partir en live. Et c'est parti de par l'essence et de par ce coût exorbitant. Mais en fait, surtout que la voiture, c'est pas un produit de luxe, c'est une condition de survie.
Ouais.
Condition de survie pour une infirmière médicale, pour un commercial, pour ce que tu veux, pour des ruraux. Et là, on marche sur la tête, mais on en revient au point, pardon, qui est celui que j'abordais au début de l'émission. Enfin, on en a parlé souvent. On en revient au pouvoir d'achat. J'ai envie de vous dire, si l'essence, je fais exprès, je schématise, était à 2,30, mais qu'on gagnait 800 euros de plus, bon, à la limite, voilà. Donc,
c'est ce qui se passe dans d'autres pays. C'est plus cher, mais on gagne beaucoup plus.
C'est ce que je veux exprimer. C'est qu'en fait, on est toujours lié à ce qu'on peut toucher et percevoir. Donc là, il y a un appauvrissement total. L'essence, je vous le dis, j'ai quand même gagné correctement ma vie. Tu fais un plein dans une Smart qui passait de 46 à 62. Je dis, tiens, j'étais à 46 balles il y a 8 mois, maintenant je suis à 62 euros à Paris. Enfin, c'est colossal. Donc, il y a un moment donné, c'est quoi le point de rupture? À quel moment ça va péter? Et ça va repartir, je ne sais pas, mais les gens sont d'une résilience absolue.
La question,
franchement, mais absolue.
Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, l'État, pris par sa toxicomanie, finalement est en train de gérer une immense pyramide de Ponzi?
L'État est en train de...
Il va s'effondrer, évidemment, comme toutes les pyramides de Ponzi.
C'est pire que ça. J'ai l'impression que l'État est tout simplement en train de s'appauvrir parce qu'on a des gens, quand on leur montre quelque chose, ils regardent juste le bout du doigt. et qu'en fait, on ne regarde pas les conséquences de cette augmentation de la fiscalité. Quand on a aujourd'hui des politiques qui se battent sur le coût de la baisse des taxes, combien ça coûtera à l'État de baisser les taxes? Ils n'ont pas parlé à Léa. Léa, elle va leur expliquer que pour l'instant, c'est le chômage qui la paye parce qu'elle a renoncé à l'emploi. Ils n'ont pas parlé à tous ceux qui renoncent à un emploi parce que ça leur coûte trop cher en mobilité. Lorsque l'État donne 100 balles et 1 mars, ils n'ont pas pensé à la mère de famille à domicile qui a 2 enfants en région, dans la France des régions, et qui prend sa voiture pour amener les enfants à l'école. Elle n'a pas le droit à ça parce que, soi-disant, elle ne bosse pas. Et ils n'ont pas pensé aux retraités qui aujourd'hui font leur plein avec un minimum vieillesse qui est lamentable et qui aujourd'hui font leur plein en se disant « mais je peux plus bouger ». Je suis confiné à domicile. Ils n'ont pas pensé, en plus, qu'on demande aux Français qui font leur plein de payer des taxes supplémentaires qui les appauvrissent en leur disant « mais il n'y a pas de problème, achetez-vous une voiture électrique ». Voiture électrique, ils ne peuvent pas l'acheter. Et on a oublié une chose. On est toujours là en France à se dire « mais pourquoi les Français n'achètent pas de voiture électrique ?» Mais la bonne affaire, est-ce qu'on se penche sur les stats? On a un Français sur deux qui n'a pas la possibilité de la brancher.
Mais c'est ça.
Donc quand on peut pas brancher parce qu'on n'a pas de place de stationnement privative, elle sert à quoi? On va faire une collection de câbles? Ça ne sert à rien.
Quand vous pensez à l'aide, les aides successives qu'on peut donner sur le carburant, c'est vraiment un produit de substitution, c'est dramatique.
Ça entretient
l'appauvrissement, la paupérisation, c'est dramatique. On prend le problème 100% à l'envers. Comment je vois ça,
Et ce que vous dites dans le livre, c'est que de toute façon, faut pas s'illusionner. C'est-à-dire que le jour où la France sera passée à l'électrique, il y a quand même une espèce de mouvement qui est là, et ben les taxes se répercuteront à ce moment-là sur l'électrique. On taxera les bornes et ce sera
peut-être plus cher.
Oui.
Donc aujourd'hui, on se dit Pierre Chasseret, il est contre l'électrique, mais pas du tout. Je les défends, je les protège dans un chapitre complet du livre. Vraiment, et aujourd'hui, on n'a pas le temps de parler évidemment de tous les chapitres, mais je pense que tous ceux à qui j'ai fait lire ce livre, à la dernière page, ont tous compris. 1. Pourquoi il faut baisser les taxes. 2. La justification. Et 3. Je vous parle même pas de ce que je dis sur les élus et les avantages des élus, parce que là, je pense qu'on aurait presque envie de vomir.
Merci Pierre Chasseret. Le livre « Balance ton plein, quel est le prix de la vie d'un Français ?» C'est un petit livre qu'on vous conseille. En plus, ça pourrait même, ça fait 120 pages. C'est pratique, c'est pragmatique. Ouais. Ça pourrait même être un petit livre de poche à garder, voyez.
C'est ça, puis il est pas cher, surtout.
Et au moment où arrivera la campagne électorale, parce que ça ravivera justement.
De toute façon, cette petite collection est excellente.
Chez Fayard. Merci Pierre d'être passé par les GG, par les grandes gueules. Dans un instant, est-ce qu'on a besoin d'avoir des cours d'intelligence artificielle à l'école? C'est pourtant ce qui va se mettre en place à la rentrée prochaine. Ça durera une heure. Les cours d'IA à l'école, au lycée, oui ou non, 32-16 pour en discuter avec les GG. Ça y est, Barbara est déjà à fond.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Chez les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Abel Bouilly, l'éducateur, Barbara Lefebvre, l'enseignante, Jean-Philippe Cartier, le chef d'entreprise, fondateur du mouvement Le Pouvoir de l'Action. On va parler intelligence artificielle parce qu'elle va arriver à l'école. Alors. Je sais pas, est-ce que ça s'inscrit dans une espèce de cirque dont on n'aurait pas forcément besoin? Dès 2027, tous les lycéens de seconde auront un cours d'intelligence artificielle à l'école. Alors, ça sera pas plus d'une heure. L'intérêt, c'est d'apprendre, je cite, le fonctionnement fondamental des modèles de langage. Quel usage concret peut-on faire de l'IA? Il y aura un volet éthique et une partie consacrée à la souveraineté numérique. Le problème, c'est que pour le moment, on veut enclencher ce programme, mais on ne sait pas encore qui va enseigner l'intelligence artificielle. Quel professeur sera chargé, ou s'il faudra un professeur dédié, ou un chef d'entreprise. Donc, avoir des cours d'IA à l'école, d'intelligence artificielle à l'école, oui ou non, indispensable, facultatif, inutile, 32-16 pour le dire au GG. Tiens, toi qui rentres de Chine, Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des cours d'IA?
Alors, c'est un sujet que j'apprécie, parce que non seulement mis à part la Chine. Pour votre information, en Chine, à partir de 6 ou 7 ans, sans me tromper, on est sur 5 à 6 heures par semaine.
Oui, 6 heures.
À partir de maintenant. 6 à 7 heures par semaine. Si voilà. C'est le mini, on peut monter plus. Je prends un exemple, évidemment, je suis provoque, mais j'ai mon fils de 11 ans et demi qui rentre en 6e, dans une école privée, et j'ai parlé à la directrice pas plus tard qu'il y a quelques semaines, en revenant justement de ce voyage, en disant, ça serait formidable que de réfléchir à peut-être 2 heures ou 3 heures à réfléchir à vous penser et tout. On en a parlé. J'espère que ça va essayer de rentrer. Mais pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité parce que seconde ou troisième ou première, c'est à mon avis nettement trop tard. Après, on en parlait tout à l'heure entre nous. Qui va donner les cours? Qui va expliquer? Qui a la philosophie de bien maîtriser le sujet? Mais ce qui est une évidence, c'est que moi, j'ai fait 7 ans d'Espagne, de cours d'espagnol où j'ai fini avec des O et des A à la fin des mots. J'ai pas appris un mot. Par contre, aujourd'hui, non mais j'avoue, en revanche, je pense que l'apprentissage de l'IA le plus jeune dans les établissements publics comme privés me paraît une évidence. Mais qui est bien plus qu'une heure par semaine et pas la seconde bien avant? Obligatoire à 100%.
Non mais surtout, la musique du cirque était bien appropriée. Les jeunes avec les réseaux sociaux et Internet, ils sont déjà dans l'IA, hein. Via CapCut, via leur téléphone portable, il y a plein de logiciels sur lesquels ils sont déjà en train de faire moult contenu. Une heure, c'est insuffisant. Au lycée, c'est beaucoup trop tard.
Et la seconde, c'est déjà beaucoup trop tard.
Faut faire de l'IA une matière à part entière avec des experts en réalité. Avec des experts qui sont issus de la filière. Mais là, ça va être du n'importe quoi. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont dans l'IA, mais depuis 2-3 ans déjà. Mais le problème de se former en autodidacte et via les réseaux sociaux, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de dérives et malheureusement, il y en a. Donc, on a encore une fois, je sais pas qui est derrière cette idée, mais l'éducation nationale ne comprend rien du tout à notre jeunesse et même nos gouvernements, c'est-à-dire qu'on a 10 ans de retard sur ce que fait nos jeunes, mais on le voit dans tout. Peut-être même 20. 20, c'est ça? 30?
Non.
40.
C'est parce que tu n'es pas un bon père d'élève. Parce que sinon, tu connaîtrais la plateforme Pix. Personne ne connaît ça. Alors, à partir de la 6e jusqu'à la seconde, je crois, tu dois aller régulièrement sur une plateforme qui s'appelle la plateforme Pix, où, soi-disant, donc, tu vas être un peu en autonomie pour valider un certain nombre de compétences en termes de numérique et d'informatique. Bon, bref. Donc, c'est pour ça que, à chaque fois que vous parlerez de ça avec une des grandes huiles du ministère, un grand homme en cravate, il vous expliquera, non, mais nous, en France, nous avons la plateforme Pix. Bon, bref. L'IA, c'est à la fois codage et technique. C'est question d'éthique, esprit critique, et ça peut être aussi un tuteur pédagogique personnel. Il y a ces trois aspects dans l'IA. Chaque pays a sa vision de l'IA. Et justement, les pays asiatiques, que ce soit la Chine, la Corée du Sud ou Singapour, ils axent énormément d'abord plus précoce, plus intensif, comme tu l'as dit, avec la Chine qui a vraiment un objectif politique massif qui est celui de la technologie, de la souveraineté technologique absolue. Les Chinois veulent tout contrôler de A à Z. Et pour ça, ils y mettent les moyens. En effet, c'est un tronc commun primaire, secondaire, dès 6 ans. Alors, en 6 ans, j'ai regardé, c'est déjà, ils travaillent sur la pensée algorithmique et la robotique. Et au collège-lycée, ils sont sur le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique. Corée du Sud, les manuels scolaires sont tous numériques avec l'IA intégrée, ce qui permet aux élèves d'être coachés dans ces exercices et en même temps d'avoir un regard qui est un peu critique. Et en Finlande et en Estonie, donc parce que on va me dire, oui, mais l'Asie, c'est une autre mentalité, nani nana. OK. Finlande et Estonie. En Finlande et en Estonie, dès 6-8 ans, on apprend aux élèves notamment à repérer tout ce qui est les biais algorithmiques, travailler tout ce qui peut être la manipulation des opinions via l'IA et aussi du codage. Donc encore une fois, et je parlerai même pas des Émirats arabes unis et d'Israël qui ont complètement intégré dans les cursus scolaires l'intelligence artificielle puisque leur objectif, c'est un objectif économique d'être leader sur l'IA. Nous, on est leader sur rien, on a la plateforme Pix et on va demander aux profs de techno, enfin, alors au lycée en seconde, il n'y a plus de prof de techno, ça va être le prof d'éco ou le prof de SI, sciences de l'ingénieur, qui va venir faire une heure d'IA, c'est-à-dire on est encore à côté de la plaque.
On va aller en Norvège avec Clément. Clément, il est étudiant en Norvège et il écoute les GG et il nous appelle au 32-16 justement. Bonjour Clément.
Bonjour à tous.
Je vous laisse nous dire d'où vous nous appelez précisément.
Je vous appelle de Kristiansund. C'est sur la côte ouest norvégienne.
D'accord. Et alors, est-ce que vous êtes, en tant qu'étudiant, est-ce que vous êtes en université? Est-ce qu'il y a des cours d'IA en université ou même dès le plus jeune âge en Norvège, dites-nous?
Alors, dès le plus jeune âge, non. Mais alors, à l'université, nous, ça, c'est une question qui a été abordée depuis 2-3 ans. Et en fait, à partir de maintenant, là, depuis l'année dernière, on est autorisé à utiliser l'intelligence artificielle sur certains examens. Et ensuite, pour beaucoup de cours, on l'utilise. Et on a demandé donc très souvent pourquoi. Et l'argument qui a été avancé, c'est parce que l'intelligence artificielle est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place dans notre vie. Les gens l'utilisent en entreprise. Et donc pourquoi nous on l'utiliserait pas? Et en fait, je pense que c'est très important que qu'en France ça se fasse, parce que comme ça a été dit, en France les gens sont largués sur tout, genre personne parle anglais, les gens ont pas de les gens ont pas de connaissances en informatique et tout, et c'est quelque chose, si on veut pas se retrouver largué dans le monde du travail, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser.
Vous sentez le décalage aujourd'hui entre la Norvège et la France, Clément, vous qui avez 31 ans, oui?
Ah bien sûr, ça fera bientôt 11 ans que je vis en Norvège. Je suis sorti de l'école hôtelière de La Rochelle. Je suis cuisinier de métier. Et donc là, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'avais un anglais qui était très scolaire. Quand je suis arrivé ici, tout le monde parlait anglais couramment. Tout le monde maîtrise l'informatique. Je veux dire, c'est la France est larguée sur beaucoup beaucoup de choses. Et si la France, voilà, on se plaint souvent que les qu'on manque de compétences, qu'on a peut-être dans certains domaines de très très grosses compétences, mais pas assez. L'intelligence artificielle est quelque chose qu'il faut maîtriser si on veut pas se retrouver encore plus largué.
Et vous, ça vous aide sur quoi comment l'IA alors aujourd'hui, Clément?
Alors nous, en fait, si vous voulez, à la fac, à l'université, on nous apprend comment l'utiliser, on nous apprend comment ça fonctionne, comment une intelligence fonctionne sur les bases de données. Donc comment l'intelligence artificielle, donc ce qu'on appelle un hub entre guillemets, une source d'information, comment l'intelligence artificielle va analyser les mots qu'on va de notre question pour aller chercher les informations, les filtrer et nous donner une réponse adaptée. Donc ça on l'apprend. Et ensuite, évidemment, il faut être critique. Il faut pas croire l'IA à 100%. On le voit bien qu'il y a des étudiants qui, quand ils ont un exercice, ils font un copier-coller.
Oui,
ils balancent ça. Il faut être critique dessus. Si on n'est pas, si on est critique, on économise énormément de temps.
Mais en fait, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, Clément, c'est de voir aujourd'hui dans bon nombre de domaines comment l'intelligence artificielle peut booster les activités. C'est-à-dire aujourd'hui, l'IA sera un accélérateur de connaissances en médecine pour les diagnostics, pour faire avancer la recherche. L'IA est un accélérateur aujourd'hui aussi, dans le domaine de l'hôtellerie, si on veut trouver les hôtels, si on veut rationaliser ses activités.
Ah, mais il y a déjà
le meilleur pour les clients.
Il y a déjà des sujets incroyables sur la relation client ou via WhatsApp. Ça répond de manière totalement automatique. Nous, on essaye de s'y mettre à fond et de comprendre. Mais juste pour rebondir sur ce que disait le jeune homme, c'est quand même flagrant. On est quand même dans un pays, encore une fois, c'est pas pour continuer de charger. Mais moi, je suis sorti en terminale à 18 ans sans parler un mot d'espagnol et sans parler un mot d'anglais. J'ai appris l'anglais à 25 ans, dans le dur, en me battant. Non mais comment un pays... J'ai deux enfants qui sont à moitié danois, qui viennent d'un pays où leur maman, le doublage n'était pas... justement, il n'y avait pas de doublage sur les séries télé et autres.
Voilà,
et à 9 ans, ils parlaient tous anglais. C'est-à-dire qu'il y a quand même un sujet, on parle d'il y a 20 ans, 30 ans. Les Allemands, tous les pays du Nord, je termine juste là-dessus, du Nord de l'Europe, ils parlent tous anglais. C'est-à-dire que moi, j'ai galéré comme personne avant de ma boîte à des Allemands qui parlaient 4 langues, je parlais à peine l'anglais, j'ai vécu un enfer. Je vais revenir sur l'IA, mais ça prouve quand même que l'éducation nationale, on a un sujet qui est dramatique dans l'apprentissage.
Vas-y. Je veux défendre mes collègues d'anglais et mes collègues de langue, parce que mes collègues de langue en général, ils veulent pas enseigner les langues comme on les oblige.
Je suis d'accord. Je pense que c'est certainement une méthodologie complètement à côté de la réalité.
On vit en France et je crois que les gens ne mesurent pas le poids du pédagogisme, le poids de ce système qui étouffe les initiatives. Moi, tous mes collègues de langue, ils pleurent. Et j'ai une collègue qui enseigne maintenant l'anglais dans un lycée français, mais en Chine. Je peux vous dire qu'elle fait pas, elle a qu'une peur, c'est de devoir revenir en France parce qu'elle me dit, au moins là-bas, j'ai beaucoup plus d'autonomie. Et bon, là-bas, les élèves, en plus, sont déjà quasiment bilingues. Mais en France, on peut pas fabriquer du bilingue parce qu'on empêche nos profs de faire correctement le travail.
100%.
Imaginez même pas comment on empêche les profs de maths de faire leur boulot. Comment on empêche les profs de physique, chimie de faire leur boulot. Donc aujourd'hui, faut tout repenser.
Mais vous imaginez,
Je vois, juste pour terminer, les programmes présidentiels piteux, qu'on lit, remettre l'uniforme, machin. C'est pas ça. Il faut remettre tout à zéro. Il y a toute l'école qui est à rebâtir pour redonner la confiance. D'abord, la confiance dans les gamins, parce que les gamins, ils savent très bien que non seulement on leur ment, mais qu'on les mène dans le mur.
Clément, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous êtes en reconversion, 31 ans, étudiant en Norvège. Vous allez continuer de vivre en Norvège. Vous voulez revenir? Vous faites quoi? Vous allez faire quoi dans la vie? Dites-moi.
Les études que je fais, c'est en logistique environnementale et durable.
D'accord.
Donc l'optimalisation des transports, des achats, des ventes, en ayant une pensée écologique là-dessus.
D'accord.
Je resterai en Norvège.
Oui, parce que en plus les pays scandinaves sont très en avance là-dessus sur la
reconversion. Sera mieux payé qu'en France.
Et vous gagnerez mieux votre vie, comme le dit Abel, ou pas, qu'en France?
Bien sûr. Là, on peut parler chiffres. Hein. Je peux en début de carrière avec le, je fais une licence, hein, donc c'est un des premiers diplômes, donc c'est juste en 3 ans. Je peux prétendre en début de carrière entre 60 et 70 000 euros par an.
Voilà.
Ah bah, effectivement. Ouais. 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 Début de carrière avec une fiscalité qui est assez solide, non, en Norvège.
Et... Tout à fait. Alors, si vous voulez, c'est prélevé à la source. Quand après, donc c'est des, il y a des tableaux et des barèmes sur quelque chose comme ça. Je devrais payer sur. Allez, on va dire 60. Allez, si on prend la moitié, 65 000 euros brut, je vais payer 30% de entre 27 et 30% de taxes.
Mais donc,
les services publics sont de bonne qualité.
Tout à fait.
Voilà. Les pays du nord d'Europe, oui, ça marche très bien.
Merci de cette expérience que vous avez partagée avec nous, Clément. Merci à vous. À bientôt dans les GG et j'espère qu'on vous aura de nouveau pour des discussions. Une heure de cours sur l'IA au lycée. Est-ce que vous pensez que c'est indispensable, oui ou non? Ah, vous mettez oui, indispensable à 60%. Quand même.
Mais tu sais, un tout petit truc, quelques secondes. Ouais. Là où les jeunes sont en train de travailler l'IA en autodidacte. On prend l'exemple du collégien qui fait ses devoirs avec ChatGPT et qui fait son copier-coller. Aujourd'hui, on en a perdu beaucoup. Pourquoi ? Beaucoup de jeunes pensent que l'IA permet de faire en 10 minutes ce qu'ils pouvaient faire en une heure, donc de glander pendant 50 minutes. Alors que c'est pas ça. Les Chinois, ils sont dans la productivité. C'est-à-dire qu'en une heure, avant, je pouvais faire une chose. Aujourd'hui, grâce à l'IA, en une heure, je peux faire peut-être 30 ou 40 choses. Et c'est tout un mindset qu'il va falloir retravailler aussi auprès de nos jeunes. Et là, exactement.
Ça peut surtout permettre à un nombre de jeunes entrepreneurs de construire des nouveaux modèles économiques. Et je pense qu'il y a un avenir incroyable devant nous. Et si on était moins cons, je pense qu'on peut s'y mettre 6 mois avant. On peut rattraper du retard demain. Ça n'arrivera pas. Mais c'est encore possible et la France pourrait le faire.
Dans un instant.
Avec une volonté, un choix... clairement une volonté politique.
On va revenir à la canicule, on va terminer avec le chiffre donné par le Premier ministre Sébastien Lecornu il y a quelques minutes, 40 morts par noyade depuis le 18 juin. Alors il y a l'imprudence, 40 morts à cause d'imprudence individuelle, mais est-ce qu'on sait aussi bien nager qu'avant? 32-16 pour venir en discuter avec les GG.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Il nous reste quelques minutes de discussion à avoir avec vous, bien sûr, au 32-16, avec Barbara Lefebvre, avec Abel Bouilly, avec Jean-Philippe Cartier, une prof, un éducateur, un chef d'entreprise. On va s'arrêter quand même, parce que c'est l'une des dernières informations de la journée, enfin de la matinée, c'est le nombre de morts par noyade. 40 morts par noyade depuis le 18 juin, c'est ce que dit Sébastien Lecornu, le Premier ministre, essentiellement des jeunes, dit-il. C'est un triste fléau, triste bilan. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a les noyades comme ça qui sont en augmentation? Il y a l'imprudence en mer, dans les cours d'eau, dans les piscines aussi. Avec la canicule, il y a aussi parfois le cocktail qui est pas très bon... alcool, déshydratation, hydrocution. Il y a ceux aussi qui commettent l'imprudence de rester très longtemps à la chaleur et puis ensuite de se baigner d'un coup dans un cours d'eau ou de sauter dans la piscine. Et bien évidemment, ça provoque l'hydrocution. Mais il y a aussi une réflexion. Alors, il y a l'imprudence, c'est une chose, mais est-ce qu'on nage aussi bien qu'avant? Ouais, tu vois, c'est une question que je me pose, je sais pas, Abel, Barbara et Jean-Philippe, dites-moi.
L'éducation nationale a introduit le savoir nager. Donc maintenant, il y a un diplôme, enfin pas un diplôme, mais normalement, t'es pas censé quitter le lycée sans avoir appris, même le collège, sans avoir appris les fondamentaux du savoir nager, c'est-à-dire être capable de se débrouiller pour battre des pieds, battre des jambes et à peu près flotter. On va pas appeler ça nager vraiment, mais enfin, voilà. Le problème, c'est encore une fois l'accès aux infrastructures type piscine municipale pour mes collègues de PS qui s'arrachent les cheveux à chaque fois, sans parler d'élèves qui ne viennent pas toujours d'ailleurs au cours de natation pour des raisons diverses et variées. Donc on peut avoir aussi un problème avec certains élèves qui s'auto-excusent pour ne pas venir au cours de piscine parce qu'ils ne veulent pas se mettre en maillot. Donc on a quand même un petit problème en France, effectivement, avec une partie de la jeunesse qui ne sait pas nager, mais qui par contre adore aller se baigner dans les cours d'eau ou dans les, vous savez, les bases de loisirs là.
Oui.
Voilà, où au début t'as pied, puis à un moment t'as plus pied. Et ils partent tous à faire n'importe quoi, à se jeter. Aussi, vous avez les structures gonflables là, sur les bases de loisirs. Et c'est comme ça qu'on a des catastrophes avec des gamins qui ne savent pas nager. Responsabilité, me semble-t-il,
et
des
encore,
parents qui les laissent faire n'importe quoi.
Tu parlais du collège. Moi, dans les années 80, j'étais à l'école primaire, oui. Et en CM2, on savait très bien nager. Et au collège, déjà, on nous apprenait même les gestes de premier secours, parce que t'as le niveau de la nage, mais les gestes de premier secours, c'est une catastrophe, parce
qu'on ne maîtrise pas en France.
Ah ben, on ne maîtrise pas, et c'est de plus en plus délaissé. En tout cas, moi, dans les établissements que j'ai fréquentés, c'était quelque chose de primordial, en fait. Donc, plus comme tu as dit, les gens qui aiment défier l'interdit. Mais c'est vrai que quand on pense à une quarantaine de morts, c'est quand même un drame absolu quand même, une pensée pour les familles. Mais c'est vrai que voilà, toujours l'éducation nationale, puisque c'est là que ça commence. Bah, faut réintroduire la natation. Bon, elle y est encore à l'école primaire. Hein. Moi, mes filles, à l'école primaire, elles savaient nager et elles nagent très bien. Hein. Donc, voilà. Mais il faut insister dessus. Bon, je comprends pas comment des jeunes arrivent à éviter les cours de natation, puisqu'en général, c'est pas le premier cours de la journée. Tu vois, tu arrives, c'est soit en fin de matinée, bah, soit en début d'après-midi.
Ils sont allergiques au chlore ou ils ont des peurs.
Oui, ils ont, d'accord, mais en tout cas.
L'allergie au chlore, c'est ça. Il y a eu une grosse épidémie. Alors maintenant, l'éducation nationale serre un peu la vis, mais on a eu une époque d'allergie au chlore.
Et tiens, avant de te donner la parole, Jean-Philippe, on a un Jean-François qui est du côté de Seine-Maritime, qui est maître nageur. Justement, bonjour Jean-François.
Bonjour.
À quoi on attribue ces 40 morts? Alors, il y a effectivement l'imprudence, mais est-ce qu'on sait aussi bien nager qu'avant?
Le problème, la natation, c'est même pour les professionnels, parce que en plus d'être maître nageur, je suis directeur du centre de formation et d'intervention de la SNSM sur le Havre, et je forme tous les nageurs sauveteurs qu'on retrouve sur les plages avec mes 33 collègues répartis en France. Et donc, c'est de la pratique. Moi, j'exerce encore jusqu'à pour l'année passée sur une piscine à Gonfreville-Lorcher, près du Havre, la piscine Védo, où les classes, on les voit de la maternelle jusqu'au CM2. Voilà, donc forcément que 8 cours de piscine chaque année avec de la maternelle au CM2, tous les élèves, je veux pas dire que tous les élèves du secteur savent nager, mais c'est une question de politique publique. On en revient toujours à la même chose, c'est une question de vouloir, en fait.
C'est une question de politique publique et de volonté et de vouloir, bah, Jean-Philippe.
Je vais pas faire celui qui a un avis sur tout, mais c'est vrai que je me souvenais plus quand était le 23 juin. 40 morts entre le 20 et le 23 juin, ça pose quand même question.
Ah oui.
40 morts en 3 jours des jeunes qui ont sauté dans l'eau.
Depuis le 18 juin,
Ça
fait 5 jours.
Je pense que de manière globale, il y a un sujet français sur tout un certain nombre de sujets de formation, d'apprentissage, de sécurité, de prévention. Il y a un truc qui va quand même pas, quoi. Enfin, d'ailleurs, dès qu'il se passe quelque chose, on est inquiet. Dès qu'on voit les gamins sauter partout, tu les vois à 21h, Canal Saint-Martin, je regardais la télé au jour, je les vois tous sauter. Il suffit de pas se regarder 2 secondes, il y a un monde de fous, moi, en tous les cas, je préfère savoir que mes enfants sont tranquilles chez moi, même s'ils savent nager à ce moment-là, mais les parents peuvent pas forcément les gérer, sont pas derrière eux. On voit l'âge de ceux qui sont dehors, on voit des enfants hyper jeunes, 10 ans, 12 ans, 14 ans, enfin. C'est une société compliquée. On le sait
et là,
tous.
Et là, actuellement, je suis démarché par des mairies pour aller surveiller, envoyer des sauveteurs SNSM surveiller leurs eaux intérieures, les petites rivières, les lacs, les différents plans d'eau. Mais ils s'y prennent un mois avant. Tout le monde est affecté sur les plages pour cet été. Les jeunes qui se baignent dans le port du Havre il y en a depuis même moi quand j'étais petit, j'ai 50 ans, quand j'étais petit on sautait des quais pour aller se rafraîchir. Voilà, maintenant le problème c'est on vit dans un monde assurantiel où il faut qu'on trouve un responsable. Les maires veulent se protéger, donc ils demandent à avoir des sauveteurs pour surveiller. Le problème c'est qu'un sauveteur ça se forme en 9 mois et je peux pas former plus vite que la musique. Voilà, donc s'ils préviennent cette année pour l'année prochaine, dont acte, je leur trouverai du monde.
Non, mais entendre qu'il y avait une grosse pénurie de maîtres nageurs, moi j'avais entendu.
On est moins 20 000 en France.
Bah voilà.
Moins 20 000.
Dans ma piscine, on doit être 12, on n'est plus que 4.
Bah oui.
On a un extérieur, on est obligé de le fermer. Des toboggans, des pantaglisses, tout un parc aquatique à l'extérieur qu'on est obligé de fermer parce que 4 maîtres nageurs, ça suffit pas.
Voilà.
Mais Jean-François, on va terminer avec Jean-Pierre qui est du côté des Hauts-de-Seine à Rueil-Malmaison. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
Vous aussi, vous étiez dans le milieu des piscines et des maîtres nageurs aussi.
Oui, j'ai été 10 ans maître nageur et après.
Il y a une régression du niveau ou pas?
Ah, complètement. Une régression du niveau, une régression aussi de... Je prenais l'exemple, lorsque je vous ai écrit, du niveau qu'il faut pour faire de la voile, par exemple. Et il y a une 15-20 ans, pour faire de la voile, il fallait savoir nager, c'est-à-dire faire 25 mètres. Mmh. Et maintenant, pour faire de la voile, vous mettez un gilet au gamin, vous le laissez tomber en arrière, il fait à peu près 15 mètres, et puis voilà, allez-y, on peut partir faire de la voile sur la mer, sur un étang, n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment une baisse de niveau. Moi, dans mon expérience assez longue, 40 ans dans la fonction territoriale, je me suis même vu à un moment donné interdire d'apprendre à nager des nages codifiées, c'est-à-dire brass crawl, à des enfants.
Donc je me souviens ça. On faisait ça. Mmh. On avait les allers-retours dans le bassin. Ah, il fallait faire
un aller. On vous a interdit de l'enseigner.
Oui, les CPC, les conseillers pédagogiques de la circonscription, c'était interdit par. Il y avait même une circulaire à l'époque. Je crois que c'était la circulaire de 87. Bon, je remonte aux calanques, pas la calanque de Marseille.
Mais qu'est-ce qu'elle disait cette circulaire?
C'était une circulaire de l'Éducation nationale. Qui nous interdisait d'apprendre des nages codifiés. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de faire.
Ah, fallait pas que ce soit codifié. Il fallait que ce soit n'importe quoi. Ça,
c'est voilà. L'éducation nationale.
Tout le pédagogisme. Ah oui, fallait laisser l'enfant à son inspiration.
Allez-y, Jean-Pierre, pour terminer.
Je vais vous dire, c'est une professeure qui dit. Je travaillais à Puteaux à l'époque, très jolie ville, près dans la région parisienne. On avait appelé ça la nage putéolienne, c'est-à-dire qu'on faisait les bras en brasse et les jambes en battement. Et voilà.
C'est génial parce que c'est exactement ça. L'enfant au cœur du système scolaire, il doit être
bouclé
de ses propres apprentissages, même dans la.
C'est bien fait de venir.
Il a fait la nager par lui-même.
Merci Jean-François, merci Jean-Pierre d'avoir été. Mais alors qu'avant, on faisait les allers-retours en bassin, on faisait 25 mètres en brasse, on revenait en brasse coulée, on revenait en crawl, on faisait le dos crawlé.
Et les plus forts faisaient le papillon.
Et ouais. Voilà. T'as raison. Et t'étais bon en papillon?
Oui, j'étais bon. Je faisais partie des groupes qui faisaient le papillon.
Bravo, ouais. Belle. Allez, merci Jean-Philippe.
Merci à vous.
On aura l'occasion de se revoir.
Merci, avec plaisir, c'est sympa.
Barbara, à bientôt. Et Estelle Denis arrive. Estelle Midi pour continuer de discuter, de débattre en direct jusqu'à 15h. Bonjour Estelle.
Salut Alain, salut les GG. On va parler bien sûr de cette France qui suffoque, des vagues de chaleur multipliées par 5 d'ici 20 ans. Est-ce que vous allez changer votre mode de vie? Est-ce que quand cette canicule sera terminée, vous allez vous ruer sur les climatiseurs? Est-ce que vous pensez à déménager? Écoutez, on en parle avec vous dans un instant. 40 décès par noyade. Est-ce qu'il faut un grand plan natation en France? Est-ce que c'est à l'État d'apprendre aux enfants à nager ou au contraire aux parents? Ça, on en parlera également avec vous à midi et demi. On parlera de France Piron, cette journaliste écartée de la chaîne L'Équipe après des propos polémiques. Est-ce que vous jugez ça logique ou scandaleux? Vous réagissez bien sûr à 13h30. Et puis, ça va faire plaisir à Barbara Lefebvre. 93% des parents comptent faire réviser leurs enfants l'été. Ah oui. Mais est-ce qu'il faut acheter un cahier de vacances aux enfants? Est-ce que ça sert à quelque chose, des cahiers de vacances? On se posera la question à 14h. Voilà, tout simplement.
Mon avis ou non? C'est trop tard.
Vas-y, donne-le bien rapido.
Non, le cahier de vacances, le problème, c'est que souvent, les enfants, ils ont besoin de quelque chose de plus ciblé, de plus personnalisé. Et justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure, si vous avez une bonne IA, et que vous savez faire des prompts, et que vous savez créer un agent IA, vous pouvez avoir des agents IA qui vont faire bosser vos enfants de façon beaucoup plus efficace cet été que de passer par des cahiers de vacances que vous n'allez pas, dont vous n'allez pas vous servir. Vous allez jeter comme ça votre enfant en lui disant « Allez, fais de la page 20 à la page 25 sans rien vérifier », alors que le prompt IA, vous vérifiez, vous suivez tout et vous voyez la discussion qu'a votre gosse.
Tu préfères alors?
Tu préfères rapide?
Salade de riz ou salade de pâte?
Salade de riz.
32-16, allez, bonne émission.